Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Nous commençons notre série « Quoi de neuf sur Napoléon ?» car oui, les historiens ont encore des choses à dire sur le Premier Empire. Ils découvrent de nouveaux textes, creusent des sujets inexplorés, posent des questions qui font écho à notre temps. Nous allons donc interroger plusieurs chercheurs qui font avancer la connaissance dans des champs très différents. Notre premier invité aujourd'hui est François Houdecec de la Fondation Napoléon. Il a coordonné l'édition de la correspondance générale de Napoléon, une grande aventure, il va nous en parler. Et cette entreprise gigantesque se décline aujourd'hui en 15 volumes aux éditions Fayard. Bonjour François Houdecec.
Bonjour.
Alors ce projet est né en 2002, il s'est achevé en 2018, c'était une aventure un peu folle. Quelle était l'idée de cette entreprise éditoriale?
Alors, tout d'abord, c'est vrai que c'est une entreprise un petit peu folle et on a voulu, en fait, à travers ça, renouveler un peu l'approche du Premier Empire, donner une source aux études napoléoniennes. Surtout à quoi on a été confronté et ce dont on s'est rendu compte, c'est tout simplement que, en fait, depuis la chute du Premier Empire, donc quasiment depuis 1815, il y avait eu une foultitude de publications sur de cette correspondance qui avait eu de multiples usages, hein, notamment politiques, tout de suite au lendemain de l'Empire, et vraiment un très très grand nombre de publications, et il fallait en fait recentrer tout ça en une seule publication. Alors il y avait eu la grande publication du Second Empire, mais qui était hagiographique, qui avait été teintée de censure. Madame de Staël n'était pas une coquine, Jérôme Napoléon n'était pas un idiot, enfin bon, etc. Il y avait plein de choses comme ça qui avaient été supprimées. L'Angleterre ne connaissait pas notre plus grande faiblesse, par exemple. Donc il fallait revoir tout ça au lendemain du Second Empire. En plus, beaucoup d'historiens avaient travaillé, avaient fait des addendas, etc. Et donc, il fallait créer déjà un outil complet de cette correspondance, recentrer toutes ces publications, de la publication des lettres intimes, des lettres privées, des lettres de Napoléon à Joséphine, jusqu'aux lettres les plus importantes, les lettres au souverain, notamment, etc., etc. Et dans cette correspondance, ce qu'on a voulu, c'est mettre absolument tous les documents qu'on a pu trouver, y compris les documents parfois insignifiants, où il dit simplement des choses très banales: vous recevrez ce rapport, merci de mon accusé réception. Voilà, ça a été mis également.
Cela représente tout de même 15 volumes, nous l'avons dit, et ces lettres, ces sources se trouvent conservées dans différents endroits, elles sont forcément dispersées. Comment avez-vous travaillé?
Alors, on a travaillé en partenariat avec tous les grands centres d'archives français et étrangers. Hein. On a contacté près de 200 centres d'archives en France et à travers le monde. Martine de Boisdeffre, à l'époque, était aux Archives de France, nous a beaucoup aidés dans pour l'aspect français, également pour l'aspect étranger, parce qu'on a eu, elle nous a fait une lettre circulaire qui a permis d'introduire nos travaux. Nous avions des bénévoles qui parfois allaient dans les centres d'archives, fouillaient jusque dans des inventaires parfois un petit peu perdus. Et c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup de travail à recentrer tout ça, puisqu'à la Fondation, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne travaillait que sur photocopie ou sur image de la lettre. Évidemment, les lettres ne nous sont pas parvenues directement à la Fondation. Et donc, après, il fallait traiter toute cette masse d'informations, parce qu'on publie un petit peu plus de 40 000 lettres. On a traité au moins trois fois plus de documents, parce que le but était vraiment d'avoir le document le plus fidèle possible à l'original, et donc avoir quelque chose vraiment de très précis. C'est ce qui fait tout l'intérêt de ce travail. On a des textes qui sont les plus précis possibles, on n'a absolument aucune coupe, et donc on est vraiment rentré dans la minutie des lettres.
Est-ce que vous avez eu des surprises? Des découvertes?
Ah oui, des surprises et des découvertes, il y en a toujours. Je me souviens de quelques lettres à Madame Mère qui étaient complètement inconnues, des lettres qui nous sont parvenues de New Delhi en Inde, on en a eu de Tokyo, on en a eu... Voilà, ça c'est pour l'aventure, on va dire, du récollement, on va dire. On a eu aussi une fois, pour les lettres à Kellerman, des lettres qui avaient suivi un trajet extrêmement tortueux à travers la Seconde Guerre mondiale, qui avait échoué en Italie. On nous a appelé de manière anonyme, on fait « Est-ce que ça vous intéresse ?» Oui. Et une semaine après, on recevait les copies à la Fondation sans savoir qui nous les avait envoyées. Et en fait, elles avaient séjourné à Berchtesgaden. Enfin, bon, un truc complètement fou. Et puis après, sur les documents eux-mêmes, évidemment, on a trouvé quelques petites perles, notamment à quel point Napoléon, des fois, pouvait rentrer dans les détails de sa correspondance et à quel point il s'impliquait, c'est vraiment lui hein, qui dicte toutes ses lettres, et il rentre parfois dans des détails. En 1813, par exemple, il compte le nombre d'ânes sur les postes frontières. Ça a été... j'étais bénévole, en fait, avant de prendre la tête de cette aventure, et ça a été une découverte pour moi de voir que l'empereur s'occupait de détails aussi fins dans sa correspondance.
Après avoir lu toutes ces lettres, vous êtes devenu familier du style de l'empereur. Comment est-ce que vous décriviez sa plume ?
Alors, c'est un style extrêmement direct. C'est vrai que l'homme Napoléon ne paraît pas dans sa correspondance, c'est de la correspondance essentiellement administrative. Il gère son empire à travers sa correspondance, et donc automatiquement, ce sont des lettres qui sont extrêmement directes. Il n'y a pas d'ouverture possible, ce ne sont que des instructions ou des ordres ou des directives à suivre. Parfois, il y a quelques ouvertures, faut pas, où il demande un rapport, il demande un avis. Etc. Mais c'est souvent très, 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 très direct. Les choses sont un petit peu différentes quand il parle aux impératrices, évidemment. Il y a des fois, il est beaucoup plus littéraire qu'on ne s'y attendait. Et surtout, des choses comme on se dit quand on lit les aphorismes de Napoléon dans ces florilèges qu'il peut exister, hein, de citations, on se dit, c'est pas vrai, il ne parle pas comme ça. Et en fait, dans sa correspondance, oui, il parle comme ça, il a des sorties des fois qui sont extrêmement percutantes, des punchlines. On pense tous à celle sur la guerre. La guerre est simple, mais c'est un art, tout est un art d'exécution. Voilà, ce genre de punchlines sont dans la correspondance, ou lorsqu'il dit impossible n'est pas français. Ben voilà, ça c'est une citation dans une lettre de 1814.
Pour conclure, toutes ces lettres constituent un vivier immense pour la recherche, et votre idée, c'est vraiment que cela puisse renouveler les études napoléoniennes.
Oui, alors c'est vrai que c'est une première marche hein, pour ce renouvellement. Nous, on a fait en sorte de créer cette matière, on voulait vraiment donner ça aux historiens pour le bicentenaire, hein, on est en plein dedans, et c'est vrai qu'il y a une foultitude de sujets à creuser. C'est vrai que refaire l'histoire de l'Empire à travers la correspondance, c'est ce qu'avait fait Thiers au 19e, bon, ça paraîtrait un peu étrange, ou Thierry également, hein, un historien du milieu du 20e siècle, ça pourrait paraître étrange, mais on peut aussi aborder l'histoire de l'Empire à travers cette correspondance, puisqu'il y a toutes les marches de cette correspondance. On a aussi dedans eh bien, toute une histoire administrative. On s'aperçoit que finalement, les rouages de l'Empire, on les connaît relativement moins bien que la grande histoire, et c'est vrai qu'à travers ça, on peut par exemple travailler sur l'administration militaire ou sur la diplomatie ou sur les relations avec les impératrices, etc. Il y a une foultitude en fait de sujets à creuser qui peuvent prendre leur source dans la correspondance. Là, en ce moment, des personnes travaillent sur les maréchaux. On s'aperçoit que si on connaissait les lettres, eh bien, en reprenant les lettres, parfois avec notre regard moderne, c'est ça qui est intéressant aussi, eh bien, on ne les lit pas pareil et on découvre d'autres choses dans tout ça. Bruno Colson l'avait très bien vu hein, quand il a travaillé sur son histoire de la guerre. Il a repris une partie de la correspondance et il a retrouvé des choses que, en fait, on ne voyait plus.
Merci François Houtsek de nous avoir partagé cette grande aventure éditoriale. Je rappelle donc que la correspondance générale de Napoléon en 15 volumes est disponible chez Fayard. À bientôt.
Merci.